Mesdames, messieurs, connaissez-vous l'ambition de l'université à laquelle nous appartenons? Eh bien, l'université Babesh-Bolyai de Cluj ambitionne de faire partie du top 500 des meilleures universités dans le monde. Certes, je vous passe le détail des contraintes imposées aux enseignants-chercheurs qui travaillent dans cette université. En fait, je vais juste dire que ce n'est pas un signe de démesure ou d'une trop grande ambition, sinon c'est véritablement une préoccupation qui se retrouve à échelle européenne. Et en fait, l'Union européenne elle-même prend des mesures dans ce sens de la compétition des universités. Et bien plus précisément, le 17 décembre 2008, la Commission européenne a lancé un appel d'offres pour la réalisation d'un classement mondial des universités. Et ce classement devrait être finalisé jusqu'en 2011. Alors, on se demande assez naturellement pourquoi la Commission européenne a commandité telle chose. N'y en a-t-il pas des classements des universités? Si, bien sûr, il y en a. Mais, en fait, il s'agit de contrebalancer une vision anglo-saxonne qui domine dans les classements existants. Il s'agit d'opposer à cela la vision européenne, de ce que l'Europe comprend par la qualité de l'enseignement supérieur. Et en fait, ce sont, jusqu'à présent, ce sont les classements existants, c'est-à-dire de type anglo-saxon, qui sont utilisés par les étudiants, et il faut le dire, des étudiants qui sont toujours plus mobiles, qui choisissent leur université un peu partout dans le monde, pas seulement dans leur région, dans leur pays, etc. Et en fait, je vais citer seulement un de ces classements qui est devenu en ce moment le plus en vogue, si vous voulez, le plus convoité par toutes les universités du monde entier. En fait, c'est le classement de Shanghai. Et ce classement a démarré, donc a été lancé en 2003, et depuis chaque année, assure la hiérarchisation des universités un peu partout dans le monde. Eh bien, selon ce classement de Shanghai, l'Europe, et quand je dis l'Europe, il s'agit bien de tout le continent, qui a constamment une mauvaise position. Cette mauvaise position de l'Europe est persistante dans le classement de Shanghai. Et il faut croire que c'est un des arguments qui a déclenché la décision de la Commission européenne de lancer son propre classement, n'est-ce pas, qui pourrait peut-être contrebalancer cette vision sur les universités européennes. Certes, il faut introduire quand même une nuance. Cette décision de la Commission européenne de fournir un classement des universités est aussi la suite logique de la stratégie de Lisbonne. Oui, puisque, on le sait, la stratégie de Lisbonne stipule que l'Union européenne doit devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et dynamique au monde, n'est-ce pas? Mais, malgré cette belle étiquette politique, l'objectif en soi n'a rien de spécial, puisque c'est un objectif qui est partagé par tous les pays développés dans le monde, pas seulement par les pays de l'Union européenne, et en plus de ça, par les pays émergents. Eh bien, la concurrence dans l'enseignement supérieur est véritablement un phénomène global, mondial. Ainsi, les systèmes universitaires nationaux se retrouvent en compétition directe pour d'abord attirer et ensuite pour retenir les meilleurs étudiants, mais non seulement étudiants, mais aussi les meilleurs enseignants et les meilleurs chercheurs. Or, dans cette compétition, les classements dont je parlais tout à l'heure sont des véritables outils de marketing, et encore des instruments décisifs, à mon sens, puisque des millions de jeunes commencent à étudier, ils entrent en masse désormais dans les universités, et c'est sur la base de ces classements qu'ils choisissent l'université dans laquelle ils vont aller. Donc, Je pense que le phénomène mérite l'attention. Qu'est-ce que je veux dire? Le nombre d'étudiants est en constante croissance depuis un moment. Et je vais vous embêter un petit peu maintenant avec pas mal de chiffres, mais je pense qu'elles sont vraiment illustratives. Alors, si dans les années 1960, dans le monde entier, il n'y avait que 13 millions d'étudiants, jusqu'en 91, on constate une progression jusqu'à 68 millions. Donc de 13 millions à 68 millions. Je pense que c'est par là. Ensuite, la progression s'accélère, puisque voilà, en 2000, nous avons dans le monde entier 115 millions d'étudiants, pour passer en 2004 à 132 millions d'étudiants. Enfin, l'UNESCO prévoit à l'horizon 2025 un nombre total de 160 millions d'étudiants. Voilà les données quantitatives. Maintenant, qu'en est-il des données qualitatives? Eh bien, il faut savoir que cette forte croissance de nombre d'étudiants a des aspects assez particuliers entre 1991 et 2004. Par exemple, le nombre d'étudiants a triplé, attention, dans l'Afrique subsaharienne ainsi qu'au Proche-Orient. Dans la même période, le nombre d'étudiants a doublé en Amérique latine et en Asie de l'Est. Alors, ces phénomènes, voilà, ils arrivent dans des régions où on s'attendrait peut-être moins que l'enseignement supérieur soit un but important. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest? Eh bien, si dans ces régions-là, en 91, le pourcentage d'étudiants était de 38%, en 2005, ce chiffre a chuté jusqu'à 25%. Eh bien, je vais me référer maintenant à un autre facteur très très important dans ce paysage. Il s'agit de la mobilité. En fait, de plus en plus d'étudiants effectuent tout ou partie de leurs études à l'étranger et non plus dans, comme j'avais dit, leur région, leur pays, etc. Et encore une fois, la répartition selon l'origine de ces étudiants est assez intéressante, puisque sur 10 étudiants qu'on pourrait appeler mobiles, n'est-ce pas, donc qui choisissent de s'installer ailleurs pour leurs études, donc sur 10, 4 sont des Asiatiques, 3 Européens, un Africain et 2 provenant d'autres régions. Enfin, je ne vais pas aller dans une profonde analyse de ce tableau, que je viens de présenter, mais je voudrais quand même rappeler deux facteurs qui justifient l'accélération de l'augmentation de nombre d'étudiants dans le monde. Une première vague, c'était dans les années 80, lorsqu'on assiste à au grand phénomène de démocratisation dans les pays européens. Ensuite, en 90, on assiste, enfin, commence le développement économique des pays émergents. Hein? Et c'est pourquoi peut-être on peut justifier des éléments que je vous avais présentés tout à l'heure dans mon tableau synthétique. Et aujourd'hui, sur un marché mondialisé, qui suppose d'abord la délocalisation, n'est-ce pas, d'usines, mais aussi, et ça c'est très important, des centres de recherche et développement qui font partie pratiquement de l'enseignement supérieur. Et d'un autre côté, avec les nouvelles multinationales qui s'installent, qui se forment dans les pays émergents, il faut savoir que les besoins de ces pays émergents en cadre supérieur vont augmenter. Et je vous donne un seul chiffre. Une estimation dit que d'ici 10-15 ans, en Chine, seront nécessaires à peu près 75 000 managers pour les diverses activités économiques, tandis qu'aujourd'hui, il n'y en a qu'à peu près 5 000. Alors, vous vous rendez compte un petit peu de la différence. Alors, aujourd'hui déjà, l'Asie est une nouvelle puissance dans l'éducation supérieure, mais il faut croire qu'avec la forte demande asiatique qui est en cours, la compétition entre les universités va s'aiguiser entre, d'un côté, les pays traditionnels où les étudiants asiatiques choisissaient d'aller, aux États-Unis, Grande-Bretagne, Australie. C'était vraiment les destinations traditionnelles et habituelles. Mais maintenant, entre sur le marché de l'enseignement supérieur, si vous voulez, une offre universitaire régionale, notamment, je citerai Singapour et les Émirats du Golfe. Eh bien, je me demande si l'Université Babesh-Bolyai, qui fait tant d'efforts aujourd'hui pour promouvoir son image, saura attirer un beau jour, pourquoi pas, ces étudiants asiatiques tant convoités sur le marché de l'enseignement supérieur. Merci de votre attention.